Alors, ça me ramène aussi à un autre exemple d'un enfant de 12 ans qui lui aussi donc avait été soumis à un processus abandonnique. En effet, son père était parti. Sa mère, suite au départ donc du mari, avait mis en place un processus dépressif très important, suivi même de longs séjours en hospitalisation qui faisait qu'elle ne pouvait plus s'occuper de ses enfants. Donc ce jeune patient avait été placé dans une famille d'accueil et indépendamment d'échecs scolaires, c'est un enfant qui ne prenait aucun soin de lui, qui ne voulait pas se laver, qui mettait des vêtements abîmés, sales. Et sa famille d'accueil avait beaucoup de difficultés à le convaincre de faire sa toilette. Donc on voit là, effectivement, ce complexe d'infériorité illustré par le fait qu'il estimait donc qu'il ne valait même pas la peine de prendre soin de lui. D'ailleurs, au sujet de cet enfant, compte tenu de son histoire, il avait mis en place un mécanisme de défense particulier. En effet, il avait des problèmes dyslexiques avec tout particulièrement des confusions au niveau de certaines lettres, comme confusion entre le M, les N, les B ou les D. Et on attribuait cela à une façon qu'il avait de s'exprimer d'une manière nasillarde, comme quelqu'un qui a le nez bouché. Alors, des vérifications médicales avaient été faites auprès de spécialistes pour voir s'il n'y avait pas une pathologie telle qu'une sinusite ou une malformation quelconque, et rien n'avait été décelé. Et lors de sa prise en charge analytique, on avait pu évacuer le fait qu'en définitive, en ayant le nez bouché, il ne sentait rien, et c'était sa manière à lui de s'être en quelque sorte anesthésié des souffrances et des douleurs qu'il avait vécues. Alors du complexe d'infériorité, on en arrive directement à la névrose d'échec. La névrose d'échec est un terme qui a été introduit par René Laforgue et qui signifie les limites des possibilités d'un sujet. En psychogénéalogie, on va parler de succession d'échecs, tant sur le plan affectif que social. Alors, ce peut être des divorces, des pertes d'emploi, des choses comme ça que l'on va observer de façon répétitive au sein d'une histoire familiale. Alors donc, en psychogénéalogie, dans un premier temps, il va s'agir de prendre conscience des mécanismes familiaux, on va dire de cette famille fantasmatique à laquelle un individu va s'identifier. Donc on a repéré le symptôme transgénérationnel, on a identifié la névrose. Pardon. Dans un deuxième temps, le psychogénéalogiste va permettre au patient de se libérer justement de ses emprises familiales, de faire en sorte que cette histoire ne le concernant plus lui permette d'accéder véritablement à ce que l'on appelle son vrai self. En effet, le symptôme ne sera jamais que celui qui est emprunté aux générations précédentes, à nos parents, eux-mêmes qui l'ont emprunté aux générations en amont. Ainsi, l'individu va se constituer véritablement une personnalité qui n'est pas la sienne, une sorte de vie par procuration. C'est ce que l'on appelle un faux self. Donc le travail analytique va consister justement à ce que l'individu puisse accéder véritablement à ce qu'il est. Chez l'abandonnique, il va lui falloir apprendre à s'aimer, à défaut justement d'avoir été aimé. Le travail analytique va mettre en place une reconstruction d'un moi fort au travers d'une renarcissisation. résoudre son abandonnisme va consister à ne plus avoir besoin justement de l'autre. En analyse, si on pousse le travail beaucoup plus loin, on peut arriver jusqu'à une sublimation. La sublimation est un terme qui a été employé par Freud et qui consiste en la capacité qu'un individu va avoir à transformer des événements affectifs douloureux en réalisation sociale. C'est-à-dire qu'il va s'agir de donner sens à une histoire qui a fait souffrir en acceptant cette histoire, donc en acceptant le symptôme transgénérationnel. En psychogénéalogie, on parle véritablement d'un défi. Alors j'ai comme exemple celui d'une patiente, aujourd'hui adulte, qui avait été donc abandonnée lorsqu'elle était enfant. Sa mère était une personne très malade, donc en permanence hospitalisée. Et son père, lui, avait quitté donc le contexte familial pour des raisons professionnelles. Et elle avait été élevée par une grand-mère qu'elle aimait beaucoup, mais néanmoins avait beaucoup souffert de la séparation, surtout avec sa mère. Alors cette personne, par la suite, a fait une formation d'éducatrice spécialisée. Et aujourd'hui, elle a mis en place la création de ce que l'on appelle des lieux de vie. C'est-à-dire qu'elle s'occupe d'enfants, d'adolescents qui ont été, pour des raisons diverses, abandonnés par leur famille et vis-à-vis desquels donc, elle essaie de faire en sorte que les choses soient mieux gérées. Voilà donc l'exemple d'une personne qui a utilisé sa propre souffrance, son propre symptôme, pour en faire une réalisation sociale. Alors, il est bien évident que le processus de sublimation est quelque chose qui est positif pour la personne qui le met en place, mais également pour les générations à venir. En ce sens que c'est donner la possibilité aux enfants qui vont venir par la suite de ne plus être soumis à cette sorte de pseudo-fatalité et d'avoir la possibilité de choisir, c'est-à-dire de choisir d'adhérer ou non à ce symptôme transgénérationnel, parce qu'il y aura toujours des individus qui seront plus permissifs que d'autres et qui, pour des raisons qui les concernent, vont pourquoi pas continuer à épouser, dirons-nous, une névrose familiale, mais d'autres pourront avoir le choix, eux, de ne pas le faire, ce qui met en place toute une liberté. Alors il est bien évident que ça ne va pas tout résoudre, effectivement, c'est pas une solution miracle, en ce sens que certains mettront en place des chemins de vie qui leur appartiendront, et d'autres pas, mais l'aspect important est de savoir qu'ils en auront toute la liberté.